Et oui, vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, campusille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Et donc voilà, depuis son origine, Radio Campus accueille la fête de la science, enfin depuis l'origine de la fête de la science plutôt, hein, et notamment dans la présentation de ce qui se passe en Hauts-de-France. Donc cette année, il y a un thème hein, qui est intelligence avec un S entre parenthèses. Donc ça ouvre le champ de la réflexion, de l'analyse et aussi des propositions qui sont faites au public pour découvrir différents aspects de cette thématique. Vu par les laboratoires de la région. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandra Préau, qui est donc responsable de la communication, recherche, innovation et mécénat aussi au CHU de Lille. Bonjour Alexandra Préau.
Bonjour.
Alors, heureux de vous accueillir parce que tout d'abord, le CHU est célèbre partout, évidemment en région, c'est la référence. Et je crois qu'il y a des unités de temps en temps qui ont des grands prix qui sont mis à l'honneur régulièrement. Un labo en plus, enfin, je veux dire, un centre hospitalier universitaire qui est aussi intégré à l'Université de Lille. Et donc, beaucoup de laboratoires travaillent en recherche, voilà, peut-être en recherche et développement. Et puis là, c'est l'occasion, fête de la science, de présenter vous dans le cadre d'un programme qui est démontré à un public qui va vous rejoindre prochainement. Vous avez une série de propositions qu'on va essayer d'expliquer, de présenter maintenant. L'idée étant de mieux connaître l'hôpital au travers de sa recherche et de sa réflexion sur les sujets de société, notamment de l'intelligence.
Tout à fait, merci de m'inviter aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques années que je travaille au sein du CHU de Lille en tant que d'accompagnante des projets de recherche. Et dans ce cadre, donc, j'ai le plaisir de coordonner au niveau du CHU l'organisation de la fête de la science. Alors le CHU de Lille, il est fortement engagé dans la fête de la science, en effet, pour avoir un rapport privilégié et direct avec les tout publics, les grands publics, que ce soit les scolaires, les plus jeunes ou également les familles. C'est un moyen à la fois de créer des vocations, de permettre aux plus jeunes de toucher, de manipuler, de tester, de questionner directement les chercheurs sur des thématiques d'actualité qui les tiennent à cœur, comme cette année donc les intelligences artificielles ou les intelligences plutôt. Et également, c'est l'occasion pour le CHU, les équipes de recherche, de présenter les enjeux qui les tiennent à cœur, les projets d'ampleur qu'on mène actuellement au sein de l'établissement et de rendre accessibles ces questionnements pendant cette fenêtre de la fête de la science.
Donc, pour vous, ça a déjà démarré il y a presque une semaine, hein, et puis vous avez déjà accueilli du public en cette circonstance.
Oui, en effet, là justement, hier, nous avions un atelier sur la thématique Inside 3D, qui est un projet Interreg, c'est-à-dire un projet de recherche transfrontalier avec la Belgique notamment, qui réfléchit à comment peut-on implémenter l'impression 3D dans les pratiques hospitalières. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'impression 3D est un moyen de personnaliser, de simplifier la prise en charge et le parcours des patients. Mais pour autant, il n'est pas intégré dans le parcours actuel. Donc il y a certains chercheurs qui ont souhaité se questionner comment et avec quels matériaux peut-on implémenter l'impression 3D dans le système hospitalier. Et ça, c'est quelque chose qui est proposé donc, dans le cadre de la fête de la science, qui est donc plutôt une réflexion sur l'intelligence collective à repenser le parcours à l'hôpital et de voir comment on peut développer des outils qui sont plus modernes, plus innovants, plus personnalisé pour le patient, que ce soit par exemple, on peut voir de l'implant dentaire, on peut voir également comment peut-on transformer le médicament plutôt qu'avoir deux médicaments dans la prise d'un patient d'avoir un médicament polycouche, c'est-à-dire que les deux médicaments se retrouvent en une seule pilule, ce qui facilitera ou ce qui faciliterait pour la prise du médicament chez le patient. Et tout ça, ce sont des questionnements que nous menons actuellement au CHU de Lille et dont des scolaires ont pu discuter avec l'équipe projet hier matin pendant toute une matinée où ils ont eux-mêmes testé l'impression 3D, dématérialisé du coup parfois le visage de leurs camarades, enfin voilà, en pleine interaction, ce qui était passionnant.
Voilà, donc la créativité est aussi au cœur de la recherche.
Évidemment.
Alors, la place à l'imagination, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, puisque je vais faire un reportage donc, au laboratoire de virologie vendredi. J'espère pouvoir le restituer la semaine prochaine, où je poserai quand même la question autour des virus, etc., qui questionne la société. Enfin, depuis le Covid, par exemple, hein, on a quand même, après, découvert, on va dire, l'univers des virus. Et on s'est posé beaucoup de questions, évidemment. Et puis, il y a aussi comment intervient maintenant, enfin, maintenant, peut-être depuis un moment, mais comment ça va se développer, l'intelligence artificielle dans le travail du chercheur, du laboratoire, comment ça peut éventuellement accélérer la recherche, amener à des résultats plus rapides, et dans certains domaines où l'homme a ses limites, peut-être que l'IA peut amener un plus dans certaines recherches, faciliter les mises en relation de données qui sont stockées peut-être dans le CHU ou de manière internationale, elle est puisée dans les banques.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la thématique d'intelligence artificielle, elle est vraiment d'actualité, elle est banger, comme on pourrait dire, auprès de tous. C'est vrai que dès qu'on met ce mot-là, il y a un intérêt qui est très accru et on peut s'interroger justement comment ça pourrait révolutionner les pratiques et de la recherche et du soin. Alors actuellement, on va dire que c'est en plein développement et qu'il y a des réflexions, il y a des questionnements au niveau de la société et au niveau du CHU aussi sur comment peut-on cadrer également cette intelligence artificielle, ou en tout cas ces activités autour de l'intelligence artificielle. Donc il y a une réflexion sur comment on s'organise, comment on cadre, comment on définit et comment on l'utilise. Ça, je pense que c'est une première étape incontournable à mener. Et c'est ce que les équipes, les professionnels et les chercheurs font actuellement. Parce que c'est de l'inconnu pour tout le monde sur justement quelles sont les limites et jusqu'où on peut aller. Et ça, c'est au niveau collectif. Et individuellement, on peut aussi s'interroger sur notre rapport avec notre façon de penser, notre capacité à réfléchir et l'usage de l'intelligence artificielle qui est là plutôt pour nous assister et parfois pour même nous rendre un peu plus paresseux sur la réflexion et penser à notre place, quoi. Donc,
Alors, c'est vrai que quand on a l'idée d'un laboratoire, comment il fonctionne, souvent ce sont des équipes de chercheurs, hein, bien sûr, qui ont une façon de travailler, une méthodologie. Évidemment, avec tout ça, ça va bousculer un petit peu les pratiques et peut-être que dans les équipes, ils vont devoir intégrer des gens qui ont une spécialisation vers ces métiers de l'IA.
C'est une bonne question. Moi, ce que j'observe actuellement dans les services et dans les équipes de recherche, c'est que le développement de ces outils sont pensés plutôt pour faciliter et pour être extrêmement intuitifs. Donc, les transitions se font assez facilement. Là, on voit actuellement dans le service d'anapathologie numérique, c'est qu'ils sont en pleine transition vers la dématérialisation des lames qui sont faites dans les centres de biopathologie. Donc en fait, à l'hôpital, lorsqu'on veut faire un diagnostic, notamment dans la maladie du cancer, on doit faire des biopsies, on doit faire des prélèvements de tissus, qui jusqu'à maintenant étaient réalisés avec de la paraffine qu'on mettait sur une lame de verre. Aujourd'hui, ou en tout cas depuis quelques mois à l'hôpital, on a dématérialisé pour rendre numérique ces lames, et du jour au lendemain, les pathologistes, donc les professionnels qui analysent ces lames, ont pu sur ordinateur mettre des filtres, passer d'une lame à l'autre avec un cliquement de souris, alors qu'auparavant, il devait faire une manipulation d'une lame en verre sur le microscope. Et éventuellement, s'il voulait le partager avec un autre expert, il devait trouver un microscope avec le double lorgnette ou alors demander d'envoyer les lames par courrier. Enfin, il y avait quelque chose qui était assez fastidieux. Alors qu'avec tous les outils de développement numérique et également d'intelligence artificielle qui vont automatiquement retourner la lame pour qu'il y ait une correspondance et une cohérence entre les différentes lames, pour pouvoir aller plus loin dans la coloration des lames, font qu'aujourd'hui, on arrive à accélérer le diagnostic et à accélérer le travail un petit peu, de fastidieux ou qui était moins intéressant dans l'intellect du professionnel ou du chercheur. Donc, je ne suis pas certaine qu'il y aura des nouveaux métiers, en tout cas pour aider à l'IA. Je pense qu'au contraire, ça va nous permettre de nous recentrer sur les missions et les activités les plus pertinentes pour l'humain et peut-être nous délester sur certaines missions qui étaient plus de la des choses fastidieuses mais pas forcément intellectuellement intéressantes.
Et puis peut-être ça permettra de favoriser le travail de collaboration entre des équipes distanciées, puisque là, il y aura directement le support qui sera facilement présentable, transposable.
C'est déjà le cas. En effet, c'est déjà une des utilisations la plus facile à mettre en place et qui se fait déjà actuellement. On pourra en effet, entre les centres qui sont éloignés du CHU, d'un CHU ou d'un grand centre expert, permettre de transmettre à la fois des dossiers patients pour une double expertise de façon plus rapide et inversement de pouvoir transmettre les dernières bonnes pratiques cliniques, les dernières informations ou savoirs en lecture d'imagerie directement dans les centres les plus éloignés. On va avoir une sorte d'intégration dans les logiciels, par exemple en imagerie médicale, qui vont se faire entre ceux qui auront les derniers équipements et les dernières connaissances scientifiques qui va permettre de se rendre accessible grâce à l'IA dans des centres plus éloignés.
Donc ça va changer les modes de fonctionnement dans un CHU avec d'autres hôpitaux dont il peut être un peu l'épicentre pour avoir servir de lieu de ressources aussi, hein, avec des personnels qui sont justement formés pour animer peut-être des équipes distantes dans d'autres hôpitaux.
Alors, de mon point de vue personnel, je dirais que tout ce qui tourne autour de l'IA, évidemment, ça bouge beaucoup et ça s'accélère et qu'il faut avoir un intérêt plus sur ce sujet-là. Par contre, c'est aussi malgré tout comme un autre outil qui aussi se développe comme auparavant. Et l'hôpital a toujours évolué comme la société a toujours été en mouvement et en évolution. Et donc peut-être qu'il faut aussi voir l'IA comme un outil supplémentaire et le laisser entre un outil supplémentaire qui va nous aider en effet à améliorer la prise en charge, à faire progresser la médecine demain. Mais comme on le faisait déjà aujourd'hui et comme les grands centres sont déjà dans une dynamique d'être un lieu de ressources et de travailler en collaboration avec les autres centres en région qui sont parfois plus isolés ou moins bien équipés.
Donc on peut peut-être proposer une visite qui a lieu vendredi du laboratoire de virologie.
Oui.
Donc ça se passe comment, à quelle heure est-ce qu'il faut réserver? Je pense que c'est 15h, 16h, si ma mémoire est bonne, mais à vérifier. Il y a des séquences scolaires, je vois, et puis...
Voilà. Tout à fait, oui. Donc c'est au centre Paul Boulanger, donc c'est juste à côté de l'hôpital Albert Calmette. La visite, elle dure une heure, et c'est vraiment une équipe qui est habituée à recevoir du public et qui ont plaisir d'échanger sur tout ce qui touche la virologie, donc... N'hésitez pas, je pense qu'il y a encore des places pour vous inscrire. C'est par téléphone, je ne sais pas si...
Oui, on peut aussi réserver par le site Fête de la Science. Donc, je vais donner un peu comment on s'y retrouve. C'est fêtesdelascience.fr et là, vous avez visite guidée du laboratoire de virologie ULR 3610. Donc, voilà, il y a tous les détails, etc. Et moi, j'essaierai de ramener la semaine prochaine une interview donc, du professeur Aubert, hein, qui est le directeur de cette unité de recherche. Je pense que ça risque d'être passionnant. J'ai déjà cette idée en tête. Vous avez aussi d'autres propositions encore par rapport à la fête de la science ?
Alors, je voulais en fait prendre l'occasion de cette discussion pour présenter une exposition qui s'appelle « Intelligence numérique ». Et qui a lieu en fait pendant tout le mois d'octobre, donc du 3 octobre jusqu'au 3 novembre, au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq. Mmh. Et donc, cette exposition, elle a été réalisée avec différents chercheurs des organismes de recherche des Hauts-de-France, notamment avec l'INRIA, l'INSERM, l'Université de Lille et également le CHU de Lille. Et en fait, elle se présente en une dizaine de panneaux où une jeune femme s'interroge justement sur la place de l'intelligence artificielle dans son quotidien. Et elle va à la rencontre de différents spécialistes pour échanger sur... comment légiférer autour de l'intelligence artificielle, quel est justement l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde de la médecine, sur le côté cognitif par exemple, de qu'est-ce qui nous différencie entre le numérique et l'humain, et tout ça de façon illustrée, et plutôt d'une version un peu bande dessinée, donc accessible pour tout le monde, et c'est très intéressant, ça soulève pas mal de questions, et ça rassemble pas mal de spécialistes sur le sujet. Donc vraiment, j'invite tout le monde à aller voir donc, cette exposition pendant tout le mois d'octobre jusqu'au 3 novembre au Forum des sciences.
D'accord. Comment on fait quand on a un labo de recherche pour faire justement cette médiation, mise à niveau de choses très complexes pour un public qui ne connaît pas forcément le sujet et qui a du mal à entrer dans la matière profonde, on va dire. Est-ce que vous avez des personnes qui savent gérer ce passage de présentation au grand public?
C'est en effet un des enjeux de la recherche, c'est de se faire connaître auprès de tous et montrer l'intérêt de sa recherche au niveau de la société, puisqu'aujourd'hui, même avec les financements, on va dire, les financements publics vont se tourner vers là où la société met son intérêt. Donc il y a beaucoup d'enjeux à rendre accessibles les recherches auprès de tous. Et on va dire qu'il y a déjà une appétence naturelle de certains chercheurs qui vont le faire et qui vont prendre le temps, qui vont comprendre que ça fait partie de leur mission. Au-delà de toutes les casquettes qu'ils portent aujourd'hui, il y a aussi la casquette d'ambassadeur de leur recherche. Donc on va dire qu'il y a déjà une volonté de l'équipe à essayer d'être médiateur de son projet. Et également, il y a des différents métiers qui existent, dont le mien, qui est aussi d'accompagner et de mettre en lumière les grandes thématiques de recherche, à essayer de prendre le temps d'appréhender les sujets, de les vulgariser et de les rendre accessibles, soit par la voie de la médiatisation. Par exemple, moi, je prends le temps de contacter certains journalistes, de passer à la radio. Ça peut être aussi par le papier, la presse écrite ou la télévision ou d'autres médias plus actuels pour donner des formats plus courts et plus accessibles et montrer que, en fait, pour le cas du CHU, qu'on ne fait pas que soigner, mais qu'on réfléchit déjà au traitement de demain et comment sera notre futur.
Alors, on a parlé du grand public. Alors, je ne sais pas si la fête de la science répond aussi à un public très particulier qui est celui des cadres politiques. Parce qu'en fait, quand on a des gens qui sont députés, qui ont des fonctions de ce type, suite à des élections, donc démocratiquement, ils ont après en charge parfois de légiférer. Et à partir de là, quelles sont les compétences qu'ils ont nécessaires pour comprendre justement comment accompagner une recherche, favoriser l'une plutôt que l'autre, comprendre les risques qui peuvent être liés aussi à certains laboratoires. il faut avoir des connaissances que eux n'ont pas dans leur formation professionnelle ou politique. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire que ces personnes qui entrent dans une forme de représentation de la population puissent avoir une formation à la science et notamment dans ces questions de société qui sont très importantes, sur lesquelles on va leur demander leur avis et qui aura bien sûr un impact sur l'avenir peut-être de l'humanité.
Alors le travail, il est à peu près similaire, on va dire, au grand public, parce que généralement, ce sont, comme vous dites, des personnes non averties. Et il faut leur prendre le temps et le soin d'expliquer au mieux les recherches. Donc c'est en effet souvent porté par les professionnels et les chercheurs eux-mêmes qui ont un aura, qui ont justement une voix plus entendue auprès de nos institutions ou nos politiciens. Donc c'est pour ça le côté ambassadeur, ils vont avoir des occasions de se rencontrer et c'est des moments propices, parfois informels, des fois plus formels, pour justement expliquer des enjeux, des actualités, des choses indispensables pour les personnes qui sont sur le terrain. Et parfois, en effet, on a aussi des personnes institutionnelles ou de la politique ou du ministère qui viennent aussi au sein des CHU, au sein des centres, au sein des universités, pour se rendre compte un peu du terrain et des problématiques de terrain.
On peut aussi imaginer que des étudiants en sciences politiques ou autres puissent être intéressés justement par ces questions de sciences et de société.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est plus on arrivera à intervenir et à faire connaître ce qui se passe intra-établissement, mieux ça sera. Donc,
voilà, donc la fête de la science, c'est aussi l'occasion de se documenter, de réfléchir et de poser des questions, de rencontrer des spécialistes.
Venez tous dans les ateliers des fêtes de la science.
Bien, merci beaucoup pour cette information et puis on continuera la semaine prochaine à présenter une autre partie de ce thème dans le cadre de cette émission Quoi de neuf à partir de 17h. Ce sera... Merci Alexandra Préau, très belle journée à vous.
Merci.